Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech, vous le savez, une heure pour prendre le temps et nous plonger tranquillement sur les sujets d'actualité tech du jour avec nos experts qui sont là et qui ont chacun évidemment des choses à dire. Christophe Holnet est là, salut Christophe.
Bonsoir François.
Christophe Holnet, senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. À tes côtés c'est Hugo Borenstein qui est là ce soir, salut Hugo.
Salut.
Co-fondateur et président d'Omi. Et puis nous avons aussi Clément David, salut Clément.
Salut.
Président de Théodo Cloud. Voilà, joli petit casting ce soir, hein, ça va débattre tranquillement sur l'actualité tech. Si vous n'êtes pas d'accord, comme d'habitude, hein, allez-y, hein, mais jamais les mains.
Hein. Jamais.
Pas de violence, Clément, parce que je sais que tu es un fan de MMA, toi. Attention, on est sur BFM Business.
Pas ce soir.
Voilà, on n'est pas sur Netflix. Alors, on va commencer par cette grève générale de 18 jours qui pourrait être votée, là, dans les heures qui viennent, par les salariés de chez Samsung. Alors, on est en Corée du Sud, et cette grève a un coût estimé, mais écoutez bien, à 20 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que, en fait, Samsung fabrique énormément de composants, évidemment pour les smartphones, les PC, mais aussi en ce moment pour les géants de l'IA, et notamment pour Nvidia, des mémoires hyper spécifiques, hyper rapides, etc. Et si tout s'arrête, si la machine Samsung s'arrête, ça pourrait être une catastrophe. Et je voulais qu'on en parle, parce que c'est pas la première fois qu'on évoque ce sujet. Visiblement, la direction n'arrive pas à s'entendre avec les salariés de Samsung. C'est inédit, cette situation, Christophe.
Ah oui, c'est surprenant parce qu'on n'a pas cette image de la Corée. On pensait que, pour une fois, c'est pas la France qui est mise en avant avec une grève.
Non, ça existe. Pour une fois qu'on parle de grève ailleurs qu'en France, ça
existe,
fait plaisir.
Ça existe ailleurs. Et ça peut être très dur, effectivement. Et je crois que ça fait peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, ou voire un peu plus que. Et c'est assez récent qu'il y ait des syndicats chez Samsung. Il faut bien voir, Samsung, c'est une énorme boîte. Ça représente, je sais pas quoi, 20 à 25% du PIB de la Corée, 26% de la capitalisation boursière. Donc c'est énorme, avec des impacts évidemment mondiaux. Donc effectivement, ce qu'on découvre dans cette grève, c'est que c'est pas seulement un problème pour Samsung, mais surtout pour tout l'ensemble de la supply chain de l'intelligence artificielle, sur lequel on réalise finalement que c'est pas seulement du cloud, des algorithmes, du logiciel, mais aussi finalement l'IA est une véritable industrie. Avec du matériel, du hardware, la nécessité de construire les serveurs, les data centers. Et effectivement, ce qui est aussi assez étonnant finalement avec cette vague IA, c'est à quel point finalement à chaque niveau, à chaque couche, il y a un monopole ou un tout petit oligopole. Il y a ASML pour les machines graphiques. Après, il y a TSMC comme fondeur. Au-dessus, il y a Nvidia. Sur les LLM, il y a une sorte de petite oligopole qui d'ailleurs se fait concurrence et n'arrive pas à beaucoup capter la valeur. L'essentiel de la valeur aujourd'hui du profit va vers les acteurs de l'infrastructure.
Et Samsung fait partie de ce maillon, est l'un des maillons de cette chaîne-là.
Il a deux concurrents, SK Hynix et Micron. Mais finalement, il fournit des sous-composants dans les chipsets Nvidia qui sont ces composants
Et s'il n'y a pas ces composants dans les chipsets Nvidia, ça ne marche pas.
Et ça ne marche pas. Et alors, ce qui va se passer, c'est que Nvidia, il faut bien comprendre aussi que la fabrication de ces composants-là est une fabrication un peu comme de l'horlogerie de très très haute précision en salle blanche, et que la perspective pour Nvidia de voir que certains composants sont des puces issues de la grève, ça lui fait peur. Il se dit, il va peut-être y avoir des défauts, sachant que un des éléments clés dans la production de ces outils-là, c'est le yield management, c'est le rendement et le très très faible taux de défaut. Et donc là, effectivement, il y a cette crainte-là, donc qui peut les détourner de Samsung, qui peut créer également des sujets de dédommagement, et donc l'impact financier d'image, il est énorme pour Samsung, tel bois qu'on se dit il est finalement tout stratégique, tout stop, si je puis dire, et le gouvernement veut s'en mêler. Alors c'est peut-être là où la comparaison va s'arrêter avec la France, parce que le gouvernement a bien l'intention d'arrêter la grève, et on va voir ce qui va se passer.
Voilà, parce que là tout se joue dans les heures qui viennent. Je crois que il y a une date butoir qui est le 21 mai, donc c'est dans 3 jours. Et alors on vous explique pourquoi en fait les salariés Samsung font grève, parce que c'est quand même important de savoir, et c'est légitime, parce que Samsung a enregistré des records de résultats. Ouais.
Monstrueux. Mais c'est pour ça que c'est la grève qu'on aimerait bien avoir. C'est-à-dire que quand on dit, ah, mais c'est, pour une fois, celle-là, elle n'est pas chez nous. Mais non, mais c'est vrai.
C'est pas une grève parce qu'ils virent des gens, là.
Non.
C'est parce qu'ils gagnent tellement d'argent que les salariés veulent leur part du gâteau.
Mais non, mais c'est ça qui est l'enfer. C'est que nous, on a les grèves de Sudrail parce qu'ils déplacent la salle de pause ou parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait grève, alors pourquoi pas. Alors que eux, ils ont une grève de Samsung parce qu'ils ont multiplié par 50 le chiffre d'affaires en un an.
On salue tous les cheminots qui écoutent Tekkenco, bien évidemment.
J'ai une vraie passion pour Sudrail, mais le truc, c'est moi, j'aimerais bien qu'il y ait un acteur industriel français, je sais pas qui, un Thales, un Dassault, ce que tu veux, qui soit capable de nous dire, alors, ils font des super trucs, notamment sur le cloud, etc., mais soit capable de nous dire, on a sur du hardware de très haute technologie multiplié nos revenus par 50 sur une année. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quand même un truc qui est, cette grève, elle, la fondation de la grève, c'est quand même une surperformance économique extraordinaire.
Ouais.
Après, ce qui est marrant, c'est que, tu sais, après le Covid, on s'était dit, bon, on espère que ça arrivera plus jamais, les bateaux bloqués à Shenzhen ou je sais pas où, et résultat,
mais ils sont encore bloqués.
Produire les Tesla, etc. On se rend compte que la chaîne est toujours aussi fragile et que, oui, par exemple, sur ces mémoires-là, tu as 3 boîtes qui les produisent dans le monde. Bon, ben, c'est non seulement la chaîne est toujours aussi fragile, mais en plus, on a une surdemande par rapport à l'époque Covid qui fait que la crise est sous stéroïde. Donc, c'est un peu l'IA qui, avec ses revenus extraordinaires, génère les crises qui vont mettre en danger sa chaîne de production IA. Mm. Donc, il y a un côté, en plus, pompier pyromane qui est compliqué. Quoi.
Voilà, et donc, ils veulent leur part du gâteau. C'est-à-dire que quand on annonce, je crois que Samsung a annoncé 1000 milliards de valo, là, il y a pas longtemps.
Ils viennent de les dépasser.
Bah, ils se disent, OK, bon, voilà, très bien, bravo.
Investissement au bénéfice.
Donnez-nous un petit quelque chose, quoi. Et la direction ne veut pas céder, en fait. Bah, c'est pour ça que.
À l'époque, Christophe aurait donné, c'est ça la question. Est-ce que toi, t'aurais fait le chèque à l'époque?
Christophe!
Moi, je suis tout à fait favorable à partager la création de valeur, bien sûr.
Bon, bah, écoutez, chez Samsung, embauchez Christophe Holnet. Tu parles coréen couramment, en plus, je crois.
Non, pas vraiment.
Zut.
Pas vraiment. Enfin,
ça va être un peu compliqué.
Oui.
Hugo. Merci.
Avec plaisir.
C'était
important. Merci pour l'invitation.
Hugo fait grève aussi, c'est pour ça. Il est un peu comme les salariés de chez Samsung. Non, je plaisante.
Non, mais ça fait un peu fin d'un cycle, effectivement. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est quand même des infrastructures qui ont mis des décennies à être construites, à être mises en place. Tu peux parler de Samsung, mais tu peux parler de ce qui se passe à Taïwan. Tu peux parler de toute la délocalisation en Asie, grosso modo. Ça ne tient pas aujourd'hui face à l'écart de richesse qui est créé par les boîtes qui sont les boîtes clients. Donc, c'est un des endroits où ça fait tâche, là. Mais du coup, tu l'as effectivement sur toute la chaîne, parce que toute la chaîne a été construite pour un monde où déjà l'écart entre la production et le bénéfice pouvait être très élevé, donc production délocalisée, bénéfice occidental, disons occidentalisé, très élevé. Mais là, on est dans des rapports de 1 à 10 millions, de 1 à 1 milliard. Donc ça marche plus. Et le truc auquel ça me fait penser, c'est que vu de chez les Américains, ça c'est une originalité. Donc dire qu'on va être en grève pendant 18 jours et qu'on veut une part, un cut, une commission sur les ventes de son client, c'est pas très américain dans la philosophie. Donc c'est aussi possible que leurs acheteurs, leurs donneurs d'ordre, effectivement, se détournent. Maintenant, il n'y a pas d'alternative, puisque tu les as cités, tu as cité les 3-4 piliers, du fondeur au concepteur au fabricant, à celui qui fait la mémoire, comme Samsung. En fait, t'as une poignée de... ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, les mecs sur qui tu peux poser. Mais l'effet culturel... Tu vois, je vois mal le management de Nvidia, qui a en plus une culture un peu sévère, ou à la Amazon, tu vois, c'est-à-dire que les employés sont des rouages d'un système et ne sont pas tout à fait en mesure de demander quoi que ce soit. Aimer ça, je pense que ça peut leur faire peur. Une grève, déjà le mot, ils ne le connaissent pas, et une grève de 18 jours sur le bénéfice, c'est un peu clivant, quoi, pour eux.
Parce que les conséquences que ça a, Christophe, c'est que, évidemment, ça fait perdre beaucoup d'argent à Samsung, et puis ça peut gripper, en fait, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, ça peut gripper, en fait, tous les maillons de la chaîne, de la production à la fois de puces Nvidia, on va parler de Cerebras dans un instant, mais aussi de tout ce qui est électronique grand public, la mémoire sur les smartphones, sur les tablettes, sur les PC.
Oui, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui un appétit énorme pour toutes ces puces-là, et Nvidia lui-même...
Il n'y en a pas assez,
Nvidia,
si en plus pendant 18 jours...
On attend des résultats d'Nvidia, là, mercredi, tout le monde est pendu à ces résultats en demandant, ils vont peut-être annoncer d'ailleurs... que TSMC n'a pas les capacités de production pour produire tout ce qu'ils ont dans leur book, en commande. Donc, si tu veux, c'est la supply chain est sous extrême tension, et le fait qu'un acteur majeur comme Samsung arrête pendant 18 jours, surtout que quand, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a l'arrêt de 18 jours, mais il y a le temps de reprise qui est très, très important.
Oui, parce que tu n'appuies pas sur un bouton.
Il
voilà.
Hein, y a tout un environnement extrêmement... Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je comprends que c'est un environnement de production sous énormes contraintes, dans des conditions de température et de pression, et qu'il faut être très, très vigilant par rapport à ça. Et ça va mettre beaucoup... Le ramp-up va être très important ensuite. Et donc, on imagine très bien que si... Il y a moins de puces Nvidia, ben ça a des impacts énormes sur tout un tas de secteurs. Ça peut créer des faillites boursières. Par exemple, les gens qui construisent des data centers, qui ont bâti tout leur modèle autour du fait que, je pense au Oracle et à tous ces gens qui en fait ont bâti des business models de construction de data centers, dont qui se sont endettés énormément sur la base de business plan qui prévoit la mise en service du data center à telle date, bah si c'est retardé de 6 mois, le business plan il est par terre dans un contexte assez difficile comme aujourd'hui avec les taux d'intérêt, etc. Ça peut avoir des conséquences importantes.
Voilà, alors les syndicats réclament notamment une hausse des salaires fixes de 7%, la suppression d'un plafond limitant les primes et une redistribution des plus favorable des profits. Et ce qui leur a mis un petit peu la puce à l'oreille et ce qui les a poussés à faire la grève, c'est que leur principal concurrent, qui est SK Hynix, justement, lui a ouvert les vannes. La direction a ouvert les vannes auprès de ses salariés en disant, écoutez, on va partager les revenus qui explosent en ce moment.
Et ce, qui est, voilà. Ce qui est quand même dingue sur ces revenus, parce que ça me fait penser à Intel, qui était au fond du trou et qui finalement, par ce jeu de cette énorme vague d'investissement sur l'IA et sur les composants.
Est en train de sortir de l'eau.
C'est que ça apparaît quasiment miraculeux.
Ouais, c'est dingue.
Le CEO l'a presque dit lui-même.
Ouais, c'est miraculeux pour eux. Ouais. Non, mais alors le truc, c'est que ça montre quand même les limites d'un système. Parce que l'IA, on te propose des abonnements où tu peux consommer une tonne de tokens pour 100€ par mois, t'as un abonnement pro ChatGPT. Avant que tu maxes ton token, faut quand même y aller. Donc on te propose quasiment de les limiter. Dans un monde où en fait c'est tout à fait limité. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une limite à cette course à la capacité de calcul.
Et que ça a de la valeur en fait.
Tout et qu'en fait c'est une limite physique, c'est une limite c'est une limite hardware. Donc le truc c'est que moi je serais Nvidia, effectivement je préférerais faire. Tu citais qui a augmenté ses employés
SK Hynix.
SK Hynix.
Bon, je les connais pas, mais je pense que c'est plus vertueux comme démarche dans une course où tu te bagarres pour les plus gros cerveaux au niveau des modèles. Les plus grosses commandes pour sécuriser ta supply chain. Et maintenant, le truc va se gripper parce que Nvidia ou Samsung, mais le donneur d'ordre à la fin n'est pas en capacité d'augmenter les salaires de 7%, de je ne sais pas quoi. Donc, c'est rigolo parce que la conquête à coup de package à 500 millions pour le chercheur, pour le prix d'un chercheur, j'imagine que tu peux augmenter les salaires de ton usine, tu vois. Donc, intéressant qu'il ne l'ait pas fait. Ou que... C'est peut-être le début, j'en sais rien. Ouais. Si ça se fait pas, c'est curieux.
Mais ce qui est intéressant, c'est que comme tu disais tout à l'heure, au tout début de ton intervention, Christophe, le gouvernement va sans doute sonner la fin de la récré très vite. C'est peut-être la différence qu'il y a entre la France et la Corée du Sud. Au bout d'un moment, il faut que tout le monde rentre dans le rang. Mais ça dure en tout
même
cas.
Même si les relations sociales peuvent être très violentes, y compris les manifestations en Corée, il y a un historique de violence en fait, dans la société, beaucoup
tout à fait.
Plus fort que ce qu'on peut penser
sud-coréen, qui n'est
vu
pas...
l'extérieur.
Qui n'est pas
ça reste
exempt.
Une démocratie quand même.
Et puis le gouvernement sud-coréen qui n'est pas exempt aussi de fautes et qui a un passé quand même assez moyen, on va dire. On enchaîne, tiens, on reste toujours dans ce sujet lié à l'IA et aux puces. On va parler de Cerebrasp parce que c'est la plus grosse introduction en bourse de l'année aux États-Unis. Pour sa cotation, Cerebras Systems a levé environ 5,55 milliards de dollars, ce qui porte sa valorisation à plus de 55 milliards de dollars. Spécialiste des processeurs géants, Cerebras multiplie les accords et tente de concurrencer Nvidia. Clara Bido nous raconte tout ça et puis après, on parlera de Cerebras sur le plateau de Tech & Co.
Fondé il y a 10 ans en Californie par l'entrepreneur américain Andrew Feldman, Cerebras Systems fait aujourd'hui partie des entreprises qui affolent la Silicon Valley. Les chiffres donnent le tournis, une activité en hausse de 76% sur un an pour un chiffre d'affaires de plus d'un demi-milliard de dollars. Le fabricant s'est spécialisé dans les puces capables de faire tourner des modèles d'IA avancés. Pour se démarquer, il mise sur des puces géantes, des plaques de silicium de la taille d'une assiette, jusqu'à 58 fois plus grandes que certaines cartes graphique de Nvidia. L'entreprise cherche maintenant à moins dépendre de ses deux principaux clients, basés aux Émirats Arabes Unis, le groupe GP42 et l'université Mohamed Bin Zayed. Et les géants du secteur de l'IA se bousculent. OpenAI a signé un accord de 20 milliards de dollars avec le fabricant. Amazon, Meta ou encore Mistral AI font aussi partie des clients.
Voilà, Cerebras. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu dans Tech & Co ces dernières semaines, mais c'est vrai que ça n'a pas l'aura d'un Nvidia. Et pourtant, c'est une boîte qui conçoit des puces géantes dédiées à l'IA, qui se positionne comme un concurrent direct de Nvidia et d'AMD aussi. Alors évidemment, ils sont beaucoup plus petits. Ils ont une autre philosophie, je crois, hein, Christophe. C'est-à-dire qu'eux fabriquent des énormes plaques avec des processeurs qui sont tous connectés les uns aux autres.
Quand TSMC produit, ils produisent des galettes de chipset.
Les wafers, non?
Les wafers, donc sortent de cette opération-là. C'est à peu près la taille d'un gros iPad. Et en fait, ça... ce que fait Nvidia, c'est qu'il découpe en morceaux pour faire des GPU.
Et après, il réassemble ces morceaux dans sa carte graphique.
Dans sa carte graphique. Et là, ce qu'ils ont dit, plutôt que d'avoir, 1000 ou je sais pas combien GPU, en fait, je vais tout laisser. On va garder l'ensemble des. J'utilise la plaque entière comme une espèce d'énorme processeur qui contient beaucoup de GPU. Voilà. Si tu découpes en 100 morceaux, si tu gardes ensemble, ça va être beaucoup plus que 100 parce que, en fait, tu bénéficies du fait qu'il y a une proximité.
Il y a une proximité, donc
il
y a moins de latence.
Ça va très, très vite, les échanges d'informations, il n'y a pas de latence et tu as du coup un effet exponentiel en termes de puissance. La contrepartie, c'est que ça chauffe terriblement. C'est-à-dire que sur ces galettes-là, il faut quasiment mettre un système de refroidissement intégré. Donc avant que ce soit dans ton téléphone, il va se passer un petit peu de temps.
Ouais, c'est ça. Ça sera plutôt dans les barbecues que dans les téléphones. Clément, excuse-moi.
C'est ce que j'ai compris. Il faut le dire que Léa n'est pas là et résultat,
c'est ça. Quand Léa n'est pas là, les souris dansent, on peut le dire. Donc Cerebras.
En fait, on était là il y a, je crois, 15 jours avec Lucas Perronin. Disait que ça va être un bon thermomètre pour le marché, cette introduction en bourse, pour que le marché nous dise. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des grosses introductions en bourse tech, etc. On va voir ce que le marché nous dit de. Comment il voit le futur? Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur des boîtes qui ont quand même une valo qui est très très décorrélée de ce qu'ils sont capables de produire en termes de chiffre d'affaires? Ils perdent beaucoup d'argent, etc. Le marché est content. Il y a quand même tout pour que ça se passe mal. Ouais. C'est-à-dire que on a des taux élevés. On a une guerre, un pétrole qui est à plus de $100 le baril, on a une guerre, machin. On a une boîte qui perd de l'argent. On a plus de 80% du chiffre d'affaires qui vient des Émirats. Donc déjà d'un seul client, mais en plus d'un client sur lequel il y a une enquête parce que c'est les US, etc. Donc en fait, c'est quand
ils ont eu un joli contrat avec OpenAI de 20 milliards.
Oui, mais qui pour l'instant génère pas encore de chiffre d'affaires, etc. Donc c'est de la projection. Et donc le truc, c'est qu'il y a tout pour que ça se passe mal. Et ça se passe hyper bien. Ça veut dire que la bulle a de beaux jours devant elle. Et c'est ce qu'on voit, tu vois, quand tu regardes le S&P 500 et que tu vois que les boîtes tech, alors qu'aujourd'hui, le pire truc pour plomber l'économie, c'est quand même le prix du baril. Il y a une guerre avec clients, avec la valo des boîtes tech, et comme ça, tu te dis qu'en fait, ça va pas chuter demain, quoi.
Les boîtes tech IA, pas les boîtes logicielles.
Les boîtes tech IA. Mais c'est vrai que, comme prise de température, ça va bien, merci pour tout, on avance.
Et puis c'est toujours le même argent. C'est incroyable ça. Non mais attends, pourquoi on n'invente pas ça, nous, le même argent qui se recycle partout? Parce que le beau contrat, c'est le contrat de OpenAI. Donc c'est 20 milliards qui viennent de Microsoft. C'est l'argent de qui? Non mais c'est quand même formidable de recycler le même argent dans le même circuit pendant, ça fait 4 ans.
C'est pour ça qu'on parle de bulle depuis un moment. C'est-à-dire que le jour où tout ça va commencer à se gripper, si ça se grippe, ça va être compliqué.
Typiquement, ce que tu racontais sur le sujet et sur Samsung, en fait, t'as un monde fini en face pour venir servir tout ça. Donc la promesse d'infini, la promesse de nouveau monde, la promesse de un sujet dont on va parler après, je ne préempte pas, mais d'avoir chacun une voiture connectée dans 24 mois, elle n'est pas réaliste puisque c'est le même argent. Il n'y a pas de nouvelle création de valeur dedans.
C'est ça qui est fou, c'est qu'un jour, une news à la Samsung fera tout exploser et on ne saura pas pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que ça a explosé alors que ça aurait pu exploser 6 mois avant, 6 mois après, je veux dire. Mais manifestement, c'est pas tout de suite.
Aujourd'hui, ça signifie qu'il y a une vraie attente et un espoir de voir aussi des concurrents à Nvidia pouvoir se positionner. Donc tout le monde se dit, à un moment donné, mais sachant que l'émergence d'un concurrent qui viendrait à éroder fortement Nvidia pourrait aussi accélérer l'explosion de la bulle. Il y a un côté assez schizophrène dans l'histoire.
Hein. Encore un acteur américain.
Ouais.
C'est ça l'autre truc, c'est que encore une brique américaine. C'est-à-dire que nous vraiment, il y a les Chinois, il y a les Américains, et nous c'est peau de lapin.
Les économiques, les montants qu'il faut pouvoir mettre sont au-delà de nos capacités aujourd'hui.
C'est pas ça. Mais si on réservait toute notre commande de cloud à un acteur européen, Ah bah oui, je le dis. Personne ne le dit, mais ça serait différent. Moi, je vois ma facture de cloud chez AWS. Tu peux faire une syncope. J'adore nos amis d'AWS, il n'y a aucun problème. Mais je peux faire
une syncope. Mais rentre en égo, tu vois.
Tu peux pas lui trouver un cloud moins cher.
Tu peux pas t'en occuper.
Alors vraiment, si on vous allez me laisser en dehors de cette histoire.
Non, tu veux pas.
Continuer sur Cerebras.
Ok, d'accord. Ah bon. Ça va, d'accord.
Moins cher, si. Aussi bon.
Ah,
pas sûr.
Ça,
ben ouais, mais c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'argent, on n'aura pas de supercomputer, on n'aura pas de data center 4.0, on n'aura rien du tout. Et du coup, on se dit, bah, comme le service n'est pas assez bien, j'y vais pas. Et on célèbre les 2-3 pauvres wins. J'ai vu là, la semaine dernière, on célébrait Scaleway qui gagne le contrat de je ne sais plus quoi.
Le Health Data Hub.
Combien c'est ça?
J'ai pas. 150 millions d'argent.
Ouais, 150
arrête
millions,
avec 150
millions.
150 millions. 150
arrête
millions.
Avec l'argent tout le temps.
Ouais, mais il faut des sous quand même.
Bon, en tout cas, Cerebras se porte bien et on voit qu'il y a un tel appétit en fait concernant de la puissance de calcul que Cerebras, qui était un outsider finalement face à Nvidia, eh bien bénéficie de cette cette inertie finalement.
Donc, Nvidia, c'est 400 fois pour l'instant le chiffre d'affaires de Cerebras. On a un peu de marge encore.
On va suivre en tout cas Cerebras de près. Notre ami Elon Musk. Comment va-t-il? C'est la question que je vous pose. Écoutez, alors je ne suis pas dans les petits papiers d'Elon Musk, mais en tous les cas, il est toujours aussi bavard. Et on va dire disert sur des sujets qu'il connaît bien, on peut le dire. Il a été interrogé lors du Smart Mobility Summit, c'était à Tel Aviv. Il a un petit peu évoqué le futur de ces industries, finalement. Et il en a quelques-unes, hein, entre l'espace, l'automobile, la santé, Neuralink, etc., etc. Ça fait quand même pas mal de choses. On va se focaliser peut-être sur un sujet qui est la voiture autonome. Ça fait des années que Elon Musk nous dit que la voiture autonome va arriver. Et ça fait des années qu'elle n'arrive pas. Il y a quand même des signes. Là, on se rapproche quand même de ce qu'il avait prédit, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, il y a des États qui roulent, on va dire avec des voitures autonomes. Hein. Vous allez en Californie, les Waymo, il y en a partout. Je l'ai vécu, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, ça commence à arriver au Texas, etc. Et donc, Elon Musk a prédit ceci. Il a dit l'année prochaine, il y aura des voitures autonomes partout aux États-Unis, et dans 5 à 10 ans, dans le monde entier. Ça sera l'inverse, c'est-à-dire qu'il y aura plus de voitures autonomes que de personnes qui conduiront des véhicules. C'est quand même fou, hein. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas déconnant, excusez-moi du mot, mais je pense que là, on est à un point de bascule. On voit que la première voiture autonome est arrivée en France, en Europe, à Zagreb, où en fait un opérateur de véhicules style Uber va lancer des véhicules autonomes avec un partenaire chinois. Donc ça y est, on y vient. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, Clément. Pour moi, il faut séparer deux trucs. Il faut séparer le sens de l'histoire, qui est en effet, il est probable qu'un jour on roule tous en voiture autonome. Et ce que fait Elon Musk? Elon Musk, c'est du management par la prophétie. Tu vois, c'est-à-dire que on balance des trucs, puis de temps en temps, on va voir ce qui colle ou pas, tu vois, et il fait ça tout le temps. Ça me fait un peu penser, sans faire de politique, ça me fait penser à ce que fait Trump avec le détroit d'Ormuz. Tous les deux jours, il me dit, bon, si cette fois ils acceptent pas, demain je rase le pays. Ça fait 2 mois qu'il dit qu'il va raser le pays, et puis ça, au final.
Excuse-moi, mais Elon Musk a fait partir des fusées qui réatterrissent.
Oui.
Il a fait des trucs quand même.
Oui, mais tu
veux dire
de la même manière que Donald Trump, il a fini par attaquer. Mais le truc, c'est que.
Oui.
En fait,
bon.
Donald Trump, je les ai notés, pardon, Elon Musk, c'est le spécialiste d'annoncer des trucs spécialement liés à la voiture qui n'arrive jamais. C'est-à-dire que oui, il a lancé le truc, mais tu vois, le dernier, c'est.
Oh, t'es dur, hein. T'es dur quand même.
Non, ces
il
annonces.
Il a sorti un constructeur automobile mondial.
Il a sorti un constructeur, mais quand tu regardes, en 2015, il dit vous aurez la voiture autonome dans 3 ans. Ça va arriver en 2026. J'en ai un autre, mais en 2024, il dit 50% des Américains auront accès en 2025 à une voiture autonome. Ça sera même pas avant 2030 ou un truc comme ça. Je veux dire, ce qui est vrai, c'est que ça maintient le cours. Ça permet de, tu vois, ça fait rêver, ça vend un projet. Ça permet d'attirer des super ingénieurs parce que tu vends une trajectoire de malade. Et puis, lui, ça lui permet de faire de la com sur l'adoption et de pousser un peu côté réglementaire en disant, vu que ça va arriver, il faut que les politiques se bougent.
Ouais.
Mais la vérité, c'est que ces prophéties et ces prédictions ne se réalisent jamais. Sur le temps long, la trajectoire est la bonne. Mais à chaque fois qu'il donne une date, tu sais qu'il faut rajouter 5 ans. Et moi, à la fin, je trouve que ça use, sa parole perd en crédibilité.
Mais vous trouvez pas qu'on est quand même à un point de bascule, Christophe?
Moi, je trouve que les choses, l'atmosphère change un petit peu, mais je partage ton point de vue, à savoir que j'ai aussi regardé ces annonces d'Elon Musk et vu qu'effectivement, souvent, c'est aussi pour des raisons un peu boursières qu'il peut le faire pour recréer. Mais Il y a quand même plusieurs éléments. Le premier, c'est que finalement, avec toute la vague IA, on se rend compte que l'approche qu'il a eue, finalement, qui n'est pas forcément avec des caméras LiDAR, mais avoir une approche beaucoup plus caméra et réseaux neuronaux, en imitation de conducteurs grâce à des bases de données.
Pour des raisons économiques, parce que les LiDAR coûtent plus cher que des caméras.
Voilà. Et finalement, cette approche-là, elle fonctionne correctement. Ouais. La deuxième chose, c'est que les Chinois sont quand même très très puissants en matière de production de voitures électriques. Les XPeng, les BYD, les gens disent c'est largement aussi bien qu'une Tesla. Donc lui, il faut absolument qu'il se déploie sur la partie logicielle. Il a commencé à ouvrir le fait qu'il va pouvoir licencier le FSD à d'autres constructeurs. Donc je pense qu'il a aussi cette vision d'être un peu l'operating system de demain de la voiture autonome. Le troisième élément qui, à mon avis, a un phénomène d'accélérateur, c'est l'électrification de la parce que a priori on peut dire ça n'a rien à voir d'une voiture autonome et d'une voiture électrique, mais la réalité c'est que quand même globalement quand tu montes dans une voiture électrique tu es moins obsédé par le moteur, par le confort, par la conduite, par l'autonomie, enfin c'est plus naturel finalement et l'aspect logiciel prend beaucoup de part dans la voiture électrique et on voit bien aujourd'hui en France il y a quand même un essentiellement dû au coût de l'essence, mais les gens sont beaucoup plus attirés vers les voitures électriques. Il va y avoir une électrification, donc je pense qu'il y a plusieurs tendances de fond qui font que lui, comme je le disais, il a vraiment besoin de se positionner là-dessus et de devenir l'operating system avec son système FSD. Et donc là, il va y avoir, on va avoir un certain nombre d'étapes, parce que ça va certainement créer beaucoup plus de fluidité dans le trafic, moins d'accidents, etc. Mais avant qu'on arrive là, il y a encore pas mal d'étapes à franchir, y compris de régulation.
On parle d'Elon Musk, ça vient de tomber. Vous savez qu'Elon Musk avait attaqué Sam Altman, en disant que reprocher en fait à OpenAI d'être devenue une société commerciale alors qu'elle aurait dû rester avec un aspect philanthropique, etc. Ça vient de tomber. Elon Musk a été débouté par le jury californien de ses poursuites contre OpenAI. Le jury a estimé, après 2 heures de délibération, que les créateurs de ChatGPT et Sam Altman avaient démontré que les poursuites de l'homme le plus riche du monde, donc Elon Musk, étaient couvertes par la prescription. Donc, voilà.
Donc, c'est pas sur le fond.
Non, c'est la prescription. Elon Musk est débouté, donc, de du procès qu'il voulait intenter à Sam Altman concernant OpenAI. Voilà, ça vient juste de tomber et on le vit en direct. Des choses à dire là-dessus ?
Grosse news, ça, pour le coup.
Oui, grosse news.
Puisque, à la base, Musk dit que OpenAI, c'est pour une IA open source, quasiment, disponible pour tout le monde, et pas une IA privatisée, commercialisée. Aujourd'hui, OpenAI, c'est vraiment une société à pur but lucratif. Elle n'a plus du tout de fonction associative comme c'était au début. Donc, le fait qu'il soit débouté de ce que tu dis sur la forme, n'enlève pas quand même, à mon avis, qu'on a besoin d'un mot sur le fond à la fin. On a besoin de savoir si ils ont détourné un projet originel et l'argent du Musk ou pas.
Christophe, prescription, c'est étrange parce que c'est pas si vieux que ça,
ouais,
non?
C'est bizarre.
C'est bizarre.
Pour moi, c'est un nuage de moins un nuage noir de moins pour OpenAI.
Ouais. Mais
c'est
loin,
d'être le seul parce que je pense que c'est l'acteur le plus faible dans ce petit oligopole des acteurs.
Je vois pas Musk s'arrêter là non plus. Moi.
Non,
je vais dire, c'est bon. Et Elon va lâcher l'affaire.
Non, mais je pense qu'il va faire appel. Enfin, il y a forcément.
Pour la prescription, c'est
au dernier dollar.
Je suis très surpris. Enfin, je suis un peu comme toi. Je suis frustré. J'aurais aimé avoir un jugement sur le fond.
Ah oui.
Là, sur la procédure en elle-même, ok, ça ne nous dit pas grand-chose, tu vois.
Voilà, en tout cas, la juge fédérale Yvonne Gonzalez-Rogers a immédiatement accepté l'avis du jury et confirmé le verdict. Donc, c'est réglé. Mais ça vient de tomber, donc je vous le rappelle, Elon Musk débouté de ses poursuites contre OpenAI pour cause de prescription. Bientôt 20h, petite pause, on poursuit Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. On va parler encore une fois d'OpenAI et de ses relations tumultueuses avec Apple. On évoquera aussi la WWDC, la conférence des développeurs Apple, avec sans doute un nouveau Siri. Et Publicis aussi qui a fait une belle acquisition, notre pépite de la publicité française qui s'est offert une très belle boîte qui s'appelle LiveRamp. On parle de tout ça dans un instant, juste après cette petite pause. Merci d'être là tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.